Europe 1.
Vive la République !
Ce qu'on doit aux Français, nos autres candidats à la présidentielle, c'est de leur présenter un projet.
Oui, la France est de retour.
C'est oser une femme qui tient.
Et il y a parfois des choix importants qu'il faut faire.
Je veux réunir la France dans la justice.
Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et vous avez l'habitude tous les vendredis soirs de cette semaine politique que nos trois rédactions voient ensemble. Avec ce soir Arthur Nazaret, bonsoir.
Bonsoir.
Du service politique du Journal du Dimanche. Bonsoir à Gilles Martin Chauffier.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir à Louis de Ragnel.
Bonsoir Pierre.
Chef du service politique d'Europe 1. Semaine à toute vitesse, j'allais dire. À toute vitesse contre quoi ? Contre cette abstention de 54%. On va en parler dans quelques instants de ces élections législatives qui visiblement ne passionnent pas les Français. Mais d'abord, peut-être parce que ça a été à la fois un coup de théâtre, un coup de semonce, un coup de ce que vous voulez. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La on ne sait quand, point d'interrogation. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter. Et quand on l'interroge là-dessus, eh bien il assume.
Vous avez bien fait dire qu'il y a eu deux tweets. Le premier, c'est lorsque les tirs ont eu lieu. Il ne s'est rien passé. Ce que je disais, ne rencontrer aucun écho, comme si c'est normal. Et en effet, c'est contre ça que je proteste. Comme ça n'a rien donné, j'ai monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux.
Voilà. Alors évidemment, tout cela fait référence à ce délit de fuite, de refus d'obtempérer en plein milieu de Paris avec cette voiture qui tout d'un coup s'en va et qui manque de faucher les policiers. On connaît la suite. Jean-Luc Mélenchon, on est à là vraiment à 24 heures des législatives pratiquement. Il est dans quelle position ? Il est dans celui qui en remet une couche parce qu'il y a les élections législatives ou parce que c'est juste Mélenchon, Louis de Ragnel ?
Mais il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a la politique, effectivement, avec Jean-Luc Mélenchon qui essaye de parler à une partie de son électorat qui est anti-police, qui est indigéniste, son électorat un peu woke. Ça, on l'a déjà bien défini, bien caractérisé. Puis moi, ce qui me choque dans la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'après, il y a le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quand même trois policiers il faut juste revenir sur les faits, qui ouvrent le feu en même temps et tirent chacun trois coups. Donc les mêmes ont le même réflexe pour se défendre. Et en plus, ils avaient deux justifications pour ouvrir le feu, d'après maintenant ce qui a été établi. Un, c'est le refus d'obtempérer. Où ils ont respecté l'intégralité de ce qui doit être établi par la police avant d'ouvrir le feu. Et la deuxième circonstance, c'est la légitime défense. En fait, c'est trois policiers qui clairement ont eu peur pour leur vie. Et donc, le seul réflexe qu'ils avaient pour se désengager, pour se dégager, c'était d'ouvrir le feu. Pour un policier, il n'y a jamais une passion, une folie, une envie de tuer. D'ailleurs, tous les policiers qui ouvrent le feu, moi j'en connais quelques-uns qui, par le passé, n'ont eu d'autre choix que de faire ça. C'est toujours un traumatisme. C'est-à-dire, se dire qu'on ouvre le feu pour immobiliser une voiture, c'est une chose. Savoir qu'ensuite son tir a provoqué la mort, c'est-à-dire qu'on a retiré la mort de quelqu'un, quelle que soit la personne en face, c'est quelque chose qui les heurte profondément.
Qu'est-ce que vous répondez à, juste parce que vous en parlez, Louis, et du coup, je me dois de vous poser cette question, qu'est-ce que vous répondez à l'avocate de la jeune femme qui est décédée et qui dit pourquoi est-ce que les policiers n'ont pas tiré dans les pneus ?
Bien, parce qu'en fait, c'est pas du tout contre vous, mais je trouve que c'est facile sur un plateau où on est bien au chaud d'analyser des scènes qui se passent en très peu de temps. Pour avoir vécu, non pas ce type de scène, mais des scènes de maintien de l'ordre où il y a des policiers qui ont dû sortir leur arme, eh bien, tout se passe extrêmement vite. La scène est en mouvement. Et donc, les policiers font ce qu'ils peuvent pour éviter de tirer à la tête, de neutraliser quelqu'un. Donc, ça, c'est l'enquête de l'IGPN qui l'établira. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait quand même, c'est que le conducteur, faut rappeler les circonstances initiales, le conducteur est arrêté, il y a une sommation pour qu'il s'arrête, parce qu'il y a quelqu'un qui ne porte pas sa ceinture de sécurité dans la voiture. Rappelons quand même le profil du conducteur, il purgeait une peine, il était en semi-liberté, il n'a pas de permis de conduire, il est positif à l'alcool, positif au cannabis, 80 citations dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, autant vous dire qu'il a un CV judiciaire long comme le bras. Et donc c'est lui qui prend la responsabilité en refusant d'obtempérer, puis en prenant une rue à sens unique. Il met en danger l'ensemble des personnes qui sont dans la voiture, mais aussi tous les gens qui sont dans la rue. Et donc, en fait, c'est le conducteur qui prend la responsabilité de mettre en danger la vie des passagers de la voiture. Et effectivement, c'est dramatique. Dès qu'il y a la mort de quelqu'un, c'est dramatique. Et il n'y a rien d'autre à dire que ça sur la passagère avant qui a été tuée.
Et Mélenchon voilà. dans tout ça.
Et Mélenchon dans tout ça. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il se sert...
Parce que là, on est en train de voir, est-ce que c'est la parole d'un responsable public de dire ça ?
Bien, moi, ce qui me choque, en fait, dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce que veut faire derrière cet épisode dramatique, Jean-Luc Mélenchon, en fait, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que les policiers ne puissent plus utiliser leur arme, dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Sauf qu'en fait, les policiers ont ouvert le feu aussi dans le cadre de la légitime défense. Donc, il attaque le principe même, si on parle du fond et pas de la politique.
De la légitime défense
qui s'applique à vous, Pierre, à nous tous, à tous nos auditeurs, mais aussi également aux policiers. Donc ça, c'est pour le fond. Ensuite, en politique, voilà, l'enjeu, c'est mobiliser une partie de son électorat qui est fortement heurté, qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire-là. Et donc, jouer aussi le match face à Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure, mais Emmanuel Macron, cette histoire, d'un point de vue politique, l'a plutôt servi cette semaine.
Arthur Nazaret, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon ? Et voilà, même punition, même question, est-ce que c'est le rôle d'un responsable public de dire « ce groupe factieux en parlant d'Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer, la honte c'est quand ?»
Alors sur Alliance, le désamour, plus que le désamour, le combat entre Jean-Luc Mélenchon et le syndicat Alliance, il n'est pas neuf du tout. Mmh. Il remonte à une manifestation de police en 2021, dans laquelle le patron du syndicat policier avait dit « le problème de la police, c'est la justice ». Et depuis, effectivement, il traite ce syndicat de façon particulière.
C'est assez neuf quand même, 2021, je pensais que vous alliez me dire...
Non, mais oui, et grosso modo, ce qui est vrai, 1976. C'est qu'à gauche, il y a une question, cette question du rapport à la police, de violence policière systémique ou non, de racisme systémique ou non, a toujours un petit peu trotté dans la tête des dirigeants de gauche et Benoît Hamon, quand il était encore engagé en politique, par exemple, avait voulu que François Hollande, et d'ailleurs c'était dans le programme du PS, je crois, à cette époque, fasse les récépissés, interdise par la suite les plaquages ventraux. Donc il y a toujours eu à gauche un questionnement sur la police et sur ses méthodes, ça oui, c'est sûr. Et donc là où je rejoins, peut-être sur le seul point où je vous rejoins, Louis, c'est sur le côté... en disant ça, il le fait effectivement exprès puisqu'il le fait en deux temps et qu'après il l'assume une troisième fois sur France Inter et surtout, effectivement, il parle à son électorat aussi.
Gilles Martin-Chauffier pour Paris Match.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça révèle de Mélenchon. En fait, l'incident, c'est simplement, il endosse la panoplie du leader d'extrême-gauche dans ce genre de situation. Mais ce qui est révélateur, c'est qu'il dit ça en France, alors que Mélenchon est un fanatique des régimes militaires. C'est-à-dire, à Paris, c'était un véritable pitbull avec la police française. Et quand il arrive à La Havane ou quand il arrive à Caracas, ça devient un caniche. Soudain, la police de Castro, la police de Chavez, la police de Maduro, tout ça passe très bien, ne le gêne absolument pas. Il ne voit pas à l'étranger, dans les pays qui nous donnent le modèle, la violence qu'il dénonce chez nous. Donc je trouve ça assez paradoxal d'avoir une espèce de véritable haine pour le préfet allemand qui lui tourne les sangs dès qu'il l'aperçoit. Et en revanche, dès qu'il voit le général Tapioca, ça lui allume des étoiles dans les yeux. Alors, je trouve que c'est incohérent. Et je pense que, pour en revenir à ce que disait... Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Louis, mais le début de son propos était parvenu évident. C'est simplement un discours qui correspond à un besoin politique. Sa campagne électorale, ça a été de dire « j'ai loupé 600 000 voix en 2017, je vais les attraper en banlieue, donc je tiens un discours qui plaît à la banlieue. Voilà, » grosso modo, pour moi, c'est
donc c'est le tout pour le tout. C'est le tout pour le tout. On est voilà, à quelques jours de...
Parce c'est la tactique électorale.
Il ne l'a pas dit aujourd'hui, mais donc voilà, on est à quelques jours des législatives et donc on tente le tout pour le tout.
Et d'ailleurs, je tiens à remarquer un petit détail qui a été souligné d'ailleurs par Gérald Darmanin dans un tweet. Il a tweeté la vidéo d'un candidat aux législatives NUPES, je crois que c'était dans une circonscription dans le nord de la région Île-de-France. Il y avait un clip vidéo « Votez Jean-Luc Mélenchon parce qu'il n'aime pas la police ». Et non, mais c'est assez révélateur, ça paraît complètement anecdotique comme ça. Mais justement, dans le cadre de cette séquence, le message est très clair d'un point de vue politique à l'égard de ses électeurs pour qui le vote anti-police est un vrai vote d'adhésion.
Alors, je le disais, donc on est vraiment pratiquement aux portes de ce premier tour des législatives. D'ailleurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce dimanche à 18h, grande soirée électorale sur Europe 1 jusqu'à minuit, ensuite avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. 54% d'abstention prévue dans les sondages. Alors, pour revenir justement à l'équipe Mélenchon, c'est Manuel Bompard tiens, qui a pris la parole sur le fameux, vous savez, c'est l'interview du président le week-end dernier dans la presse régionale qui disait il n'y a aucun parti politique qui peut me soumettre le nom d'un Premier ministre, je nommerai entre guillemets, enfin entre parenthèses, celui que je voudrais. Écoutez Manuel Bompard qui répond au président de la République.
Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République, franchement, ça ne tient pas la route. Quand il nous dit, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être Premier ministre parce que je ne le nommerai pas, si bonhomme, tu vas le nommer.
Bonhomme, donc. Bonhomme. Et alors, vous aurez remarqué quand même que le journaliste sur une radio concurrente ne reprend pas, ce qui moi m'a un peu étonné, Manuel Bompard, sur le terme bonhomme. Ça ne vous choque pas, vous, bonhomme, Gilles-Martin Chauffier ?
Je pense que si, c'est complètement choquant, et je dirai pourquoi ensuite, mais je pense que c'est tout simplement un phénomène, ce qui est la banlieuisation de la politique française. On parle familier, on s'exprime un peu comme des racailles. Et je dis en même temps que c'est un retour à l'expéditeur d'une certaine manière, parce que Emmanuel Macron lui-même s'est laissé aller, quand il disait, s'est laissé filmer délibérément en disant « on donne un pognon de dingue pour les services sociaux et ça rend rien ». Et puis Emmanuel Macron a quand même fait au début de l'année…
Sa faute.
Un peu. Quand il arrive, il dit « j'ai envie d'emmerder les Français », on n'a jamais vu ça d'une certaine manière.
C'est
donc
vrai.
Il crée lui-même les conditions…
Il y a eu Pompidou qui avait dit arrêtez d'emmerder.
Ça n'avait rien à voir.
Non, mais le terme emmerder, pardon, on fait de la sémantique.
Il dit ça à ses ministres.
Pompidou, c'était tout à fait sympathique, amical et drôle. Alors que là, lui, c'est carrément un peu odieux. Et ça veut dire choqué. Quand on l'a su de Pompidou, tout le monde a dit il a bien raison de dire ça. Quand Emmanuel Macron l'a dit, tout le monde a dit mais comment il peut se laisser
aller dire ça ? Tout le monde était choqué, oui, effectivement.
Donc, en fait, je pense qu'on a, en règle générale, une forme de discours dévalué, familier, un peu démagogique qui affaiblit la République. Et je pense que ça ramène le débat au niveau du café du commerce. Alors, Manuel Bompard, bon, c'est pas non plus la fin du monde, c'est un peu lamentable, c'est un peu nul, mais c'est pas la fin du monde. Mais en revanche, je trouve que ça révèle.
Ça veut dire, on s'en fiche, quoi. Hein.
Ça révèle le niveau où est tombée la France. Ouais. La semaine où l'Angleterre se donne un faste, apparat, maintient le protocole, maintient les apparats, nous, on tombe dans la vulgarité complète. Et après, on s'étonne que les gens qui s'installent en France ne soient pas fascinés par la France. Évidemment, on donne un spectacle affligeant. Bon, et le discours de Bompard est affligeant.
Arthur Nazaret pour le JDD.
Non, mais Emmanuel Valls disait que la politique et que les politiques parlaient une langue morte. Là, il a parlé pour le coup une langue vivante, sans doute trop vivante, triviale et peut-être déplacée.
Ce que je trouve génial, c'est que vous arrivez quand même à parler de Manuel Valls.
Toujours. On me l'a demandé avant de venir. Vous me l'avez demandé dans les couloirs.
Non, c'est pas vrai.
Dites-le aux auditeurs. C'est vrai qu'il y a ce mot qui a choqué, sur lequel on a pu s'arrêter. Mais à gauche, ils sont aussi choqués par le fait que le président Emmanuel Macron parle désormais des extrêmes. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-tours, pour battre Marine Le Pen, il était allé chercher cet électorat NUPES, cet électorat de la coalition de gauche d'aujourd'hui, derrière Mélenchon. Et désormais, il doit battre Mélenchon, qui ne se présente pas, mais indirectement, et il le met dans le même sac que Marine Le Pen. Et ça, à gauche, ça énerve aussi.
Louis de Ragnel.
Non, mais je suis assez d'accord. Il y a vraiment une question de forme et une question de fond. Sur la forme, moi, quel que soit le président de la République, quel que soit d'ailleurs le personnel politique, moi, je trouve ça assez lamentable de s'exprimer comme ça, parce que vous incarnez, que vous le vouliez ou non, vous devez montrer l'exemple, vous devez montrer une bonne image.
Quand on est responsable politique,
bien sûr,
à n'importe quel niveau.
Ah, je pense, oui, il y a un devoir vraiment d'exemplarité, à la fois dans le vocabulaire, mais on pourrait d'ailleurs avoir, je pense, un échange passionnant sur la paupérisation du vocabulaire du personnel politique. C'est quelque chose d'assez affligeant. Il y a de moins en moins de références. Ce sont toujours les mêmes mots. Il y a beaucoup de mots valises. Bref, on pourra faire une autre émission.
Des mots valises, c'est pas mal.
Pour parler de ça.
Vrai,
mais tout le monde, on pourra parler, par exemple, des valeurs les fameuses valeurs de la République qui sont placées à toutes les sauces. C'est, à mon avis,
la gesticulation
républicaine. Qui ne veulent plus dire grand-chose, malheureusement, puisque chacun lui donne la signification qu'il souhaite.
Ouais, ça.
Voilà. Donc, sur la forme, je trouve ça profondément choquant. Et encore plus à l'égard de la figure du président de la République. Moi, je suis extrêmement attaché à la 5e République, au fait que le président de la République soit vraiment un peu au-dessus de la mêlée. Et donc, forcément, ça dégrade la fonction, ça dégrade surtout le locuteur, c'est-à-dire celui qui... Ça me dégrade Manuel Bompard. Pour parler un peu plus du fond, il se trompe complètement, Manuel Bompard. Pour plusieurs raisons. La première, c'est
Quand il dit, presque comme une invective, il le nommera, il n'aura pas le choix.
La première, c'est que... vous avez raison.
Rappeler, parce que c'était il y a longtemps. Ah, oui. On ne va pas repasser Emmanuel Bompard. Donc je...
Oui, non, je pense, tout d'abord, même si tout est très incertain, je pense qu'Emmanuel Macron aura une majorité à l'Assemblée nationale. Peut-être que je me trompe, on verra. Peut-être que vendredi prochain, vous me repasserez ce son et vous me direz que je me suis bien trompé. Mais voilà, je pense qu'il aura sa majorité.
Ça fait mon genre.
Et quand bien même Emmanuel Macron, s'il n'a pas sa majorité... c'est pas la France insoumise qui décidera comme ça. La France insoumise peut proposer un nom, Emmanuel Macron peut refuser ce nom. Alors ce que Jean-Luc Mélenchon a promis, c'est que si ça se passe comme ça,
ça peut durer.
Exactement. En fait, c'est qu'on rentre dans une phase d'instabilité dans laquelle la majorité à l'Assemblée nationale, donc la majorité très à gauche, proposera systématiquement le nom de Jean-Luc Mélenchon, qui sera systématiquement refusé par Emmanuel Macron. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a promis, en tout cas.
Non, il y a une date limite ou pas constitutionnellement, c'est-à-dire qu'il y a
non, ça peut durer. Ça s'appelle vraiment une crise politique.
Il y a pas genre vous avez le droit à 10 noms puis après au bout de 10 noms.
Il y a rien qui stipule le nombre de refus. Ah. Donc ça créerait une vraie fragilité institutionnelle dans la pratique du pouvoir. Mais de toute façon, que Emmanuel Macron ait ou non la majorité, puisqu'en fait c'est ça le sujet, je pense que la pratique du pouvoir sera très compliquée, parce qu'à partir de 2024, la succession d'Emmanuel Macron se posera clairement, et Édouard Philippe par exemple, ou quelqu'un qui au sein du Modem veut se présenter à l'élection présidentielle, eh bien fera entendre sa différence, sera obligé un peu de tuer le père, sera obligé de se démarquer, et donc fragilisera mécaniquement la majorité présidentielle. Et donc je pense que le pays sera extrêmement difficile à gouverner. Je pense que ce sera même la période la plus difficile en termes de pratique du pouvoir depuis une trentaine d'années.
On va en parler après une première d'un mot.
Je voudrais juste faire une remarque sur ce qu'a dit Louis. Il y a une jurisprudence institutionnelle en France. Mitterrand avait dit à l'époque, mais Chirac, s'il gagne en 86, je le nomme Premier ministre, si j'ai envie de Premier ministre, je peux très bien nommer Valéry Giscard d'Estaing, je peux très bien nommer Jacques Chaban-Delmas. Il a fait planer cette menace pendant des mois. Et puis finalement, non. Si quelqu'un gagne, on appelle le vainqueur de la coalition. Et donc, tout ça, c'est des mots.
De toute façon, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux législatives.
On va voir si cette jurisprudence est respectée. 18h18, une première pause dans la semaine politique Europe 1, JDD Paris Match. Je reviens dans un instant, à tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et toujours à table en ce vendredi soir avec Arthur Nazaret du JDD, Louis de Ragnel d'Europe 1 et Gilles-Martin Chauffier de Paris Match. Louis le disait à demi-mot juste avant la pause publicitaire, le principal, adversaire d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr la NUPES. Alors, quand il y a moyen de critiquer la NUPES, le président y va.
De NUPES, c'est un projet d'interdiction et de taxation. C'est un projet où il y a 20 taxations nouvelles. Donc, c'est pas un bon projet pour le pays.
Voilà, donc c'est court, c'est bref, mais en tout cas, c'est ce que dit le président de la République. Autre échange, et là, je vous demande de prêter l'oreille. Il est entouré de jeunes enfants. Il y a un dialogue avec une petite fille à propos de Jean-Luc Mélenchon.
Je veux pas qu'il gagne, tu vois, mon législatif, sinon
voilà, je ne veux pas qu'il gagne aux législatives, dit le président Macron, après qu'un jeune garçon dit « moi je le dégage ». Voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est dit. Principal adversaire de...
Et meilleur allié.
Et meilleur allié, c'est ça. Hein,
et meilleur allié, parce que alors, c'est une stratégie qui peut être risquée.
Louis de
mais on voit qu'Emmanuel Macron a laissé monter Jean-Luc Mélenchon, il a laissé prendre toute la place, même médiatique. On a beaucoup, beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon.
Mais à dessein ou un peu
Je pense qu'au début, c'était malgré lui, parce qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie. Et puis, il s'est dit, finalement, c'est pas plus mal, parce que ça permet de recréer à peu près le même duel inversé que celui qu'il avait, fait en désignant Marine Le Pen comme sa principale, son adversaire préféré, si on peut parler ainsi. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de... Il a laissé Jean-Luc Mélenchon même s'engouffrer dans le sujet sur les questions policières, donc plutôt anti-police. Ça lui permettait à lui, Emmanuel Macron, de se poser en défenseur de la police, en défenseur de la République, des institutions, défenseur d'une forme de stabilité du pays, là où Jean-Luc Mélenchon, en tout cas selon Emmanuel Macron, incarne le chaos, la France déstructurée et abîmée.
Arthur Nazaret, pour le JDD.
Du coup, c'est vrai que la gauche, les mélenchonistes, mais pas que, avaient l'impression pendant longtemps de boxer dans le vide. et se disait que c'était peut-être aussi une stratégie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est une élection, on en parlera peut-être tout à l'heure, où il y aura beaucoup d'abstention. Or, en règle générale, quand même, les électeurs de Macron, d'Emmanuel Macron, se déplacent plus pour ce genre d'élection intermédiaire, disons, pour le dire vite, que les mélenchonistes qui, eux, comptent sur les quartiers populaires, les classes populaires, qui votent moins. Donc, ils se disaient, voilà, c'est une façon de ne pas surmobiliser. Et puis, c'est vrai que peut-être que les sondages... ont un peu mis la panique à l'Élysée parce que d'une majorité très large qu'il devait avoir, on est passé à une majorité relative et à certains qui donnent à touche-touche avec la NUPES. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron s'est dit « il faut que j'y aille moi-même » aussi parce que Elisabeth Borne, sa première ministre, a sans doute plein de qualités, mais elle ne s'est jamais frottée au suffrage universel jusqu'ici et c'était peut-être pas la meilleure première ministre pour mener ce combat-là.
Vous voulez dire qu'il y a des regrets là-dessus, d'avoir envoyé Elisabeth Borne au charbon ?
Non, alors d'abord, j'en sais rien. Et ensuite, je pense qu'il a fait le pari, lui, qu'il aurait sa majorité et qu'après, il fallait un profil type Elisabeth Borne pour gouverner, parce que c'est une femme qui sait gouverner, c'est une femme qui sait gérer les dossiers, elle a beaucoup de... Enfin, voilà, elle s'y connaît sur l'écologie, sur le social.
Elle ne lui fait pas d'ombre non plus.
Ça, c'est vous qui le dites.
Bah, je ne sais pas.
Non, mais il y a une dimension psychologique.
Non, mais je vous pose
forte.
La question. Oui. Vous trouvez...
Dans l'immédiat, non, ça, non. Mais dans l'immédiat, on disait aussi que Philippe ne faisait pas d'ombre à Emmanuel Macron, et au final, aujourd'hui, il apparaît comme
le
caillou dans la
même,
chaussure.
Là.
Non, le profil n'est pas le même. Ce que je veux dire, c'est que des personnalités peuvent se révéler. On ne va pas l'enterrer à peine nommé.
Gilles Martin Chauffier pour Paris Match.
Je pense, pareil, je pense qu'il y a un peu panique à bord, en fait. Au début, ils se sont dit, voilà, là, c'est gagné. Peut-être traditionnellement, législative, suivant la présidentielle, le parti du président l'emporte. Et on n'a pas bougé. Je vous rappelle qu'on a mis quand même presque 15 jours à nommer Elisabeth Borne. Après nous avoir fait tout un foin en disant c'est choisi.
C'était pas le premier choix, c'est pour
sans doute pas, mais c'était sûrement
c'était
compliqué.
Le premier,
on saura le détail de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ils étaient très sûrs d'eux et ça allait lentement. On n'avait pas à se presser. Elisabeth Borne est nommée, alors effet zéro. Alors ça, c'est, on peut dire, c'est le plat intégral. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que... En fait, c'est pas le plat intégral, c'est le faux plat. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on nous disait, mais c'est gagné, ça va être 350 voix. Et puis, toutes les semaines, le sondage, il y avait 10 sièges de moins. Donc maintenant, on est arrivé à 300 et avec les autres 270. On commence à se dire un peu panique. Et là où Macron en arrive à finir par dire « aidez-moi à vaincre Jean-Luc Mélenchon »,
c'est vrai qu'il dit
c'est
ça.
Que ouais. Emmanuel Macron est tout seul. C'est ça qui est extraordinaire. Je veux dire, il y a eu des barons. Gérard Collomb, il est parti. Édouard Philippe. Par gentillesse, pas évoquer les rapports de Macron et de Édouard Philippe, qui sont épouvantables.
Quelle bienveillance.
Richard Ferrand, il y a quand même des casseroles autour des chavons.
Castaner.
Oui, enfin Christophe Castaner, c'est plus vraiment un baron. Enfin, bon, il n'a pas vraiment de poids lourd autour de lui. Donc il se retrouve tout seul. Et maintenant, on en arrive à ce qu'il dit à cette jeune fille, qui est, en fait, c'est assez logique, c'est cohérent. Il dit, mais c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire, c'est Louis XV, en fait, maintenant. Si jamais vous élisez Mélenchon, on va sortir de l'Europe. Si vous élisez Mélenchon, on va sortir de l'OTAN. Si vous élisez Mélenchon, le chômage va être multiplié
taxation.
Par 3.
Taxation.
Oui. Ouais. Alors, et tout ça...
Et interdiction.
Et tout ça, panique, mais pas de proposition. C'est-à-dire, est-ce que la retraite va être à 65 ans, 64 ou 63? Il ne le dit toujours pas. Le chèque, il va être de combien? Mystère et boule de gomme. Je trouve qu'il y a...
Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu mystère et boule de gomme. Près depuis 1986.
Hein. Oui, je date un peu.
Oui. Aussi. Louis de Ragnel.
Ce que dit Gilles est très juste. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez... qui ressemble aussi beaucoup à Emmanuel Macron. Il a toujours fait ça, en fait, politiquement. Il veut se retrouver, il aime les situations comme ça, où il y a un antagonisme extrêmement fort, donc avec deux choix.
Mais il joue avec le feu.
Tout oppose.
Il aime jouer
avec le feu,
ah,
Pierre.
Il aime jouer
mais
avec
il
le
aime
feu.
Prendre des risques. Et il est persuadé qu'au fond de lui, là, il est tellement fort qu'il va, à chaque fois, il gagne. En fait, c'est comme dans un dessin animé ou dans une série où lui, elle joue le rôle du héros.
C'est comme Nadal, à la fin, c'est lui qui gagne.
C'est un peu ça. Où il prend des risques, où il joue avec le feu, il renverse parfois un peu la table. Il faut quand même se souvenir, c'est ce qu'évoquait Arthur Nazaret, je crois, tout à l'heure, c'est que Emmanuel Macron a quand même essayé de séduire de manière très très lourde l'électorat de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines, pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle. Là, ça ne le gênait absolument pas. D'expliquer à une jeune fille qui portait le voile que c'était le voile était l'allégorie du féminisme. Oui. Enfin, là, il n'y avait aucun problème. Et là, soudainement, effectivement, il y a un changement de braquet complet avec un discours que pourrait tenir un candidat LR, même de Reconquête ou du Rassemblement National. Donc, ce qui est compliqué dans la nouvelle vie politique aujourd'hui, c'est que les gens oublient, enfin, il y a une sorte d'oubli, on a l'impression qu'il y a un... Tout a été, le disque dur a été vidé entre la présidentielle et les législatives. Donc voilà, il repart à zéro. À chaque fois, Emmanuel Macron considère, dès qu'il y a une étape qui s'est produite, dès qu'il y a eu un événement majeur, eh bien, il repart à zéro, un peu comme on passerait d'une série, d'un épisode à une autre dans une série.
Alors,
Et en plus, parfois même, ça peut sembler même contradictoire. Il repart de, plus 50 à 0 et à moins 50. Quand on a pendant 5 ans Jean-Michel Blanquer, on nous dit pendant 5 ans Jean-Michel Blanquer, c'est la grande réussite, il a eu des moyens, il a fait des réformes. Et on nomme ensuite Papendaï, dont j'ai dit l'autre jour, je ne pense pas que Papendaï va révolutionner quoi que ce soit. Je pense que Papendaï, c'est un bon gestionnaire et que c'est un gène de Rastignac. Mais c'est quand même traditionnel. À première vue, c'est le contraire complètement de Jean-Michel Blanquer. Donc, ça désarçonne un peu l'électorat qui se dit, mais finalement...
Mais lui, il a les nerfs solides aussi par son passé de banquier. C'est-à-dire que quand on voit ce que donnent les salles de marché et quand vous voyez qu'une banque peut perdre je ne sais pas combien de milliards et les regagner dans la même après-midi, du coup, c'est peut-être ça aussi.
Enfin, en 2008, ils ont perdu des milliards, ils les ont regagnés au bout de 2-3 ans, mais il y a un certain nombre de gens qui sont restés sur le carreau, quelques centaines de milliers aux États-Unis.
Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas de... Le risque ne lui fait pas peur. Et là, aujourd'hui, le débat en fait, qu'il plante, qui est assez simple, vous l'aviez dit, Arthur, tout à l'heure, très justement, les jeunes vont plutôt moins voter aux élections législatives et les personnes âgées, CSP+, ce sont plutôt eux qui vont aller voter. Donc, plutôt l'électorat d'Emmanuel Macron. Et ce qui se passe, il explique en fait, attention, il y a le danger rouge, c'est vraiment Mélenchon le grand dangereux, ou alors on va continuer à essayer de vivre comme on vit depuis toujours.
Le grand dangereux d'ailleurs...
Le danger rouge, il n'y a pas qu'en France qu'il y a encore un danger
rouge. Donc les personnes âgées, moi je vois, j'ai eu plusieurs personnes âgées au téléphone cette semaine, qui me disent mais attention, tu te rends compte si Jean-Luc Mélenchon remporte le pouvoir...
Je pense qu'on a eu les mêmes.
Non mais il y a ce risque-là qui existe. Voilà, et ça c'est dans l'inconscient de personnes âgées, voilà, il y a des souvenirs quand même très fort. Et donc Emmanuel Macron essaye d'enclencher une dynamique de vote utile. Il n'y a que lui en fait qui permet de résister à Jean-Luc Mélenchon. Et de ce point de vue-là, c'est risqué, mais jusqu'à aujourd'hui, ça a été assez efficace.
On va reparler dans un instant de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le titre de votre article dans Paris Match, Jean-Luc Mélenchon, la grande illusion. Mais il y en a une qu'on n'a pas entendue, on l'entend peu, mais bon, c'est vrai qu'elle a pris, j'allais dire, le train en retard par rapport, en tout cas, à Jean-Luc Mélenchon. C'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, sur la probabilité ou la possibilité de voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon, voilà ce qu'elle dit.
Il a vendu quelque chose qui n'arrivera jamais, à savoir sa possibilité d'être Premier ministre. Enfin, je veux dire, il a moins de chances d'être Premier ministre que moi de gagner au loto sans jouer.
Ça, c'est Marine Le Pen, c'est quand on la côtoie un peu, quand on la connaît, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle elle est très blagueuse, elle aime beaucoup la petite blagounette. Bon, là, en l'occurrence, elle en fait une. Elle a tort ou elle a raison sur la probabilité de Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre.
En l'occurrence, je pense que pour une fois, sa blague est assez bonne, elle est courte et assez drôle, et je pense qu'elle a raison. Je ne crois pas une seconde à la victoire de Jean-Luc Mélenchon. C'est de l'auto-persuasion, c'est la méthode Coué. Je répète sur tous les tons que je vais gagner, et finalement, ça finit par prendre, la mayonnaise finit par prendre. Mais je ne pense pas qu'à l'arrivée, on va y arriver. Et je pense que Marine Le Pen ne s'en inquiète pas tellement. Vous savez, la preuve, c'est qu'au début, c'est même la chose qui est le plus troublant dans cette campagne électorale, c'est que Marine Le Pen n'a pas bougé. Le Rassemblement National se réveille depuis 3-4 jours.
Oui,
Au début, on aurait dit, les Insoumis vont avoir 190, 200 députés, vous en aurez 25, 30. Oui, ça va. Ça avait l'air de choquer personne. Alors, au bout d'un moment, maintenant, on se dit, mais c'est tellement énorme qu'il se réveille.
Plus, ouais.
Mais bon, elle se réveille beaucoup trop tard. Et à mon avis, malheureusement, elle n'a pas l'énergie. Parce qu'on a l'impression, en plus, qu'elle. C'est presque psychique chez elle. On a l'impression qu'elle a pris un coup. Et que maintenant, elle est en train tranquillement de laisser passer Jordan Bardella en numéro 1 du parti. Que sans doute. En plus, elle a fait. Je termine juste, elle a fait une erreur monumentale, c'est évidemment de faire payer à Zemmour et à Marion Maréchal la création de Reconquête.
Parce que
Là, maintenant, au lieu d'être à 23%, il serait à 30%. Et donc, ils auraient effectivement des chances. Là, elle a vraiment saccagé son propre camp. Et donc, là, maintenant, elle se rassure en disant « Mélenchon ne sera pas président. Et ne sera pas Premier ministre. » Elle a raison. Mais je veux dire, en même temps, c'est une belle sortie pour une campagne lamentable.
Arthur Nazaret, du JDD.
Oui, non, Marine Le Pen, c'est un peu la défaite en chantant, quoi. Parce qu'elle ouais. est quand même deuxième. Il faut quand même le rappeler, presque.
Oui,
c'est elle qui est au second tour.
Ah bah, oui.
Et qu'est-ce qu'elle fait au lendemain du second tour? Rien.
Elle disparaît.
Quand elle disparaît pas, c'est pour dire qu'elle joue la défaite, mais que c'est normal parce que ça s'est toujours passé comme ça sous la Ve République. Mais c'est pas du tout mobilisateur. La question, c'est pas de savoir si Mélenchon.
Ça se passait comme ça à une époque de la Ve République où le calendrier n'était pas inversé.
Non, mais même après. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, c'est pas tellement de savoir si Jean-Luc Mélenchon aura une majorité qui le fera Premier ministre. C'est juste que c'est un mot d'ordre qui est mobilisateur et qui, du coup, crée une dynamique. Et c'est quand même assez hallucinant de voir que Marine Le Pen ne réussit pas à faire une alliance avec les amis d'Éric Zemmour quand on sait que la plupart des cadres de ce parti-là, deux semaines avant, ils étaient encore chez elle. Alors que à la NUPES, comme on dit, ils sont ils se sont tirés,
Mais j'ai peut-être tort, parce que c'est Mélenchon qui a dit qu'ailleurs qu'on disait ce qu'on voulait.
La NUPES que la NUPES.
Vous dites ce que vous voulez. Donc moi je dis la NUPES.
Bah, je voulais juste finir en tout cas en disant que à gauche ils se sont tirés dans le dos pendant plus d'une dizaine d'années et ils ont réussi à se mettre d'accord. Elle aurait pu le faire, sauf à penser que elle voulait raser Reconquête, et c'est-à-dire les envoyer au casse-pipe, aux législatives, sans accord, donc sans député.
Arthur Nazaret, du JDD, Louis de Ragnel, d'Europe 1 et Gilles-Martin Chauffier de Paris Match sont toujours là jusqu'à 19h et on parle dans un instant justement de Jean-Luc Mélenchon, la grande illusion, c'est le titre de l'article, à tout de suite.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et c'est vrai qu'il y a tout un débat sociologique, comme disait Arthur Nazaret, autour de Jean-Luc Mélenchon et notamment de ce portrait qui est fait de lui dans Paris Match, Jean-Luc Mélenchon, la grande illusion. On va en parler dans un instant avec Gilles-Martin Chauffier de Paris Match, notamment Louis Dragnel d'Europe 1 et Arthur Nazaret du JDD. On est passé quand même un peu vite sur l'abstention. C'est vrai que 54% d'abstention. Bon, c'est peut-être c'est les derniers sondages, je regarde pas comme ça, Louis.
Bien sûr, bien sûr.
On est passé un peu vite là-dessus.
Je pense qu'effectivement, on passait un peu vite, mais parce qu'il n'y a pas de surprise en fait. Je crois que les gens, maintenant.
Non, mais vous rendez compte de l'inertie. C'est-à-dire, on dit 54%
pourquoi
c'est comme si on disait
pourquoi les gens se déplaceraient massivement pour une assemblée qui ne ressemble pas. Le problème de l'Assemblée nationale française, c'est qu'elle ne ressemble pas à la France. Dans cette Assemblée nationale, il n'y aura pas d'ouvriers, il n'y aura pas de gilets jaunes, il y aura. Le Front National représente peut-être 25%, il y aura 1 ou 2% de députés du Front National. En revanche, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des profs, il y aura des avocats, il y aura des médecins, il y aura des technocrates. C'est pas la République du peuple, c'est la République des technos et des avocats. Et donc, effectivement, c'est ça. C'est pour ça que les gens n'y vont pas.
Ne me regardez pas comme ça. Vous avez un avis, j'en ai peut-être un autre.
On peut plus vous regarder.
C'est vous qui me regardez. C'est
comme le soleil. On n'a rien de droit de faire dans ce studio. La prochaine fois, je vais remettre mon masque, en fait.
Et en fait, c'est comme ça que le bluff de Mélenchon a payé, parce que lui, il a fait une campagne à la Trump. Et donc, ça a secoué complètement la gauche, qui dit « Ah bah tiens, je vais y aller ». Parce que ce qu'on trouve absolument amusant et énergique et moderne chez Mélenchon, c'est tout ce qu'on trouvait absolument odieux, ridicule et insupportable chez Trump. Mais chez nous, ça marche. Et donc, il roule des épaules face à Macron. Et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, c'est lui qui a redonné un peu de peps à cette campagne qui, sans ça, partait pour être mortel d'ennui si on était resté sur Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
D'accord avec ça, Louis Dragnel?
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Moi, je pense que le problème de fond, c'est pourquoi est-ce que les gens veulent plus voter? Parce que, c'est assez inaudible, peut-être que certaines personnes comprendront, mais aujourd'hui, un député, malheureusement, ça ne sert plus à grand-chose. Quand vous êtes dans la majorité, c'est la critique qui est assez juste, c'est-à-dire que vous votez, c'est un peu une chambre d'enregistrement, et quand vous êtes dans l'opposition, comme on est dans un système majoritaire et le système démocratique est ainsi fait, dans l'opposition, vous ne servez pas à grand-chose. Il y a, par le passé, des hommes politiques qui ont tenté de faire participer l'opposition à certains projets de loi, à certains textes, pour essayer de les impliquer. Mais globalement, je pense que le premier problème se trouve là. Et puis, il y a des racines beaucoup plus profondes. Je pense que la fin du cumul des mandats a été très néfaste sur le rôle qu'aujourd'hui ont les politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réserve parlementaire. Enfin, tout ce qu'on critiquait avant, hein, moi j'étais un ardent défenseur de ce qu'on appelle abusivement d'ailleurs le cumul des mandats. Je pense que c'est nécessaire en fait qu'un député ait un ancrage local, pas forcément avec une très grosse mairie, mais parce qu'il est obligé de rendre des comptes aussi à ses administrés. Aujourd'hui, comme le député est déconnecté de cet ancrage local, eh bien, les Français ne savent pas ce qu'ils font. Avant, vous aviez votre député qui obtenait, je dis n'importe quoi, mais une subvention de 150 000 euros pour rénover un stade de foot, oui. Pour une association. Il y avait une réalité tangible et votre député, vous l'appréciez ou pas? Parce que vous disiez, c'est quand même grâce à lui, c'est lui qui a été négocié.
Beaucoup plus que pour sa couleur politique, d'ailleurs.
Absolument. Et du coup, on rentre dans une logique, et je pense que si on arrive à la proportionnelle, qui, sous certains aspects, peut avoir des vertus, je pense que la proportionnelle va achever définitivement le lien entre les Français et le pouvoir politique. Parce que, en fait, les élus n'ont plus le pouvoir politique. Le problème, c'est la disparition du politique. Et par exemple, et je trouve qu'un des symptômes de cette disparition du politique, c'est Emmanuel Macron qui propose de créer son CNR, le Conseil National de la Refondation, pour en fait proposer aux citoyens français de décider un peu à la place des députés et des sénateurs, alors qu'on sait que constitutionnellement, de toute façon, ce sont les sénateurs et les députés qui auront le dernier mot. Donc en fait, ils créent avec...
Il y a déjà le Conseil économique social qui ne sert à rien pour ça. Voilà.
mais si on fait une toute petite digression, non mais parce que le CNR, c'est ça peut être anecdotique, mais en fait, c'est pour moi, c'est le reflet, c'est l'illustration...
Dernier, mais effectivement,
c'est l'illustration du problème, et pour moi, c'est vraiment l'archétype de la fausse bonne idée. Parce que vous donnez l'illusion aux citoyens français qui peuvent reprendre le pouvoir, alors qu'en fait, statutairement, c'est faux. Je peux m'appuyer sur un exemple réel. C'est au moment où Emmanuel Macron propose la Convention citoyenne pour le climat.
Ah bah oui.
Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron dit « je prends tout à l'exception de 5 idées ». Je crois que c'était notamment la sortie.
Sans filtre.
Et puis finalement, il suffit d'écouter à la fois les détracteurs de la Convention citoyenne pour le climat et même les participants, les acteurs, ceux qui étaient très impliqués. Oui. Eh bien, il y a un consensus. On n'a pas été écoutés. On est très déçus, on est désabusés, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, voilà, tout ça, c'est illusoire. Je pense que, simplement pour terminer et revenir peut-être sur le fond de l'idée, c'est qu'en fait, le politique n'a pas assez de pouvoir. Je pense qu'il faut redonner, revaloriser la fonction d'élu. Et c'est pas uniquement en faisant des tweets de soutien. Ouais.
Vous pourriez rajouter aussi le Sénat, parce qu'à chaque élection, on dit « tiens, on va supprimer le Sénat ».
Là, ce serait une erreur fondamentale.
Là, il ne l'a pas dit, Emmanuel Macron, mais il a dit qu'on va créer une chambre supplémentaire. Donc on aurait le Sénat, qui comme disait le doyen Vedel, ce sont les représentants du seigle et de la châtaigne. Vous avez les députés qui, d'une certaine manière, est une chambre d'enregistrement. Ouais. Et vous avez ce CNR qui serait là, mais bon...
Qui est une fausse bonne idée,
dans lequel, si je vous comprends bien, et je pense qu'on est à peu près tous du même avis autour de cette table, serait une sorte de boîte à propositions dans laquelle le président piocherait ce qui lui plaît.
Mais oui, mais il n'a pas besoin du CNR pour ça. Ouais. Moi, je trouve qu'en fait, à force de...
Oui,
en
mais
fait,
il a besoin d'arguments électoraux.
Non, mais en fait, ça lui sert politiquement à lui, mais ça ne sert pas aux Français. C'est la différence en fait, entre l'objet politique au service d'Emmanuel Macron ou de toute autre politique et l'objet politique qui est réellement à destination des Français. Et là, je pense vraiment que ce n'est pas à destination des Français. On a beaucoup trop détricoté l'esprit initial de la Ve République et je pense que c'est pour ça qu'on en est arrivé là.
Un petit mot, Arthur Nazaré, avant qu'on passe à Mélenchon.
Effectivement, sur le CNR, c'est un peu bizarre de le mettre en avant au moment où on élit les députés. Alors, où sera le pouvoir? Et par ailleurs, moi, je pense que De Gaulle aurait dit que c'est un machin, mais même les ministres, au sortir du Conseil des ministres, ne savent pas définir ce que c'est. C'est un peu bizarre.
Ouais, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été mis au courant.
Il n'y a que l'administration française. La fonction publique ne représente que 5 500 000 personnes. Donc il faut absolument créer un conseil pour avoir des idées. C'est inquiétant.
Gilles-Martin Chauffier de Paris Match, parlez-nous de cet article signé Sophie Desdéserts, qui est une enquête en fait, et Émilie Lanez. Jean-Luc Mélenchon, la grande illusion, on le voit dans les rues de Metz, errant,
Oui, là, l'image, c'est un peu la promenade d'un rêveur solitaire. Il est tout seul dans une rue. Mais le portrait est amusant et intéressant parce qu'il est très, très fouillé. Et il révèle la grande intelligence et la grande perversion de Mélenchon. Scott Fitzgerald disait que la preuve de l'intelligence, c'est de fonctionner sur des idées contradictoires.
C'est vrai.
Mélenchon, c'est d'une contradiction du début à la fin. Tout chez lui est double. Il commence, au début, on le sait très bien, le fameux Lambertiste, vous savez, le trotskiste pur et dur, etc. En même temps, sa passion de jeune homme, c'est l'histoire. Sa passion, c'est Louis XI. Il met au-dessus de tout le livre de Paul Murray Kandal, la biographie de Louis XI, qui est vraiment l'inverse évidemment, du Lambertiste. On le voit aujourd'hui, on entend parler des flics sur un ton odieux. En fait, sa passion, c'est les militaires. Et ce n'est pas seulement les militaires de Castro et de Chavez, c'est les militaires français. Il était à la commission de la Défense nationale, était très ami avec Serge Dassault. Il a rencontré plusieurs fois le général de Villiers. Et en même temps, cet homme qui est l'incarnation de l'extrême-gauche, donc dans l'anticapitalisme primaire, de temps en temps même, il dit « je plagie Poutou » parce qu'il a, d'une façon amusante, il dit ça. Et il dit, au fond, son entreprise, l'entreprise des Insoumis, c'est l'entreprise la plus réglo, la plus efficace, la plus payante quasiment de la classe politique française. Tout est organisé, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Ils ont acheté des locaux, ils ont une société civile immobilière, il y a des produits dérivés. Tout ça est réglé comme du papier à musique. Et tout ça est réglé comme du papier à musique par ses proches, c'est-à-dire par son entourage immédiat.
Émilie et Sophie écrivent: Mélenchon n'a guère le goût du luxe, même s'il sait apprécier un bon restaurant, un détail raffiné chez une femme, une broche ou un foulard Hermès. Donc on est vraiment complètement dans la contradiction. Et là, vous avez, sans le vouloir, dit en même temps, mais ça rappelle quand même quelqu'un d'autre qui est aussi dans ces contradictions.
C'est tous les gens un peu intelligents, un peu supérieurs. Et Mélenchon, pas de gros défaut, mais il est quand même d'une intelligence supérieure et c'est un orateur exceptionnel. C'est pas étonnant qu'on ne découvre pas qu'il est intelligent. Ce qui est plutôt amusant, c'est ce côté... Là, vous disiez, il aime bien les bons repas, les bons foulards.
Oui.
En même temps, il a déclaré, on sait qu'il ne supporte pas Fabien Roussel, qui est lui beaucoup plus bonne bouffe, bon steak. Et lui dit, moi, je suis la France qui noie. Qui est quand même complètement dingue de penser que Mélenchon a dit ça. Oui, il a dit, pour ma ligne, pour ma campagne et tout, moi, je mange du quinoa, je mange des salades de quinoa.
Là, il dit, quand je serai dictateur éclairé, je supprimerai les feuilles de salade sous l'entrecôte. Donc, faut savoir.
Il a dit un jour, et il dit le contraire le lendemain. C'est un peu le principe même du fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon.
Facile à suivre.
C'est pour ça qu'il est à la fois très, très à l'ancienne et très moderne, mais il est sur TikTok. C'est le plus efficace des candidats en matière de TikTok. C'est pour ça qu'on a appelé ça la grande illusion. C'est-à-dire qu'on a toujours le Mélenchon qu'on cherche.
Arthur Nazareth, vous qui suivez Jean-Luc Mélenchon souvent, vous vous reconnaissez un peu dans ce portrait-là?
Alors, je trouve qu'en termes de ligne politique, il a parfois des habiletés. Un coup, il est de gauche... Un coup, il répudie ce mot et il est le candidat du peuple. Mais je trouve que par contre, si vous prenez un peu son programme, maintenant ça fait 3 fois qu'il y va, sur sa ligne politique, je ne trouve qu'il ne varie pas énormément. Alors il y a des bougets, mais on ne peut pas dire qu'il se dédie ou qu'il ne soit pas franc du collier.
Vous trouvez qu'il n'a pas changé ? Sur la laïcité, vous trouvez qu'il n'a pas changé ? Moi, je trouve qu'il a beaucoup changé.
Sur l'Europe, il était contre le... je crois qu'il a voté Maastricht, mais ensuite...
Ça m'étonne.
Je crois, il faut vérifier. Mais après ça, il a changé.
C'était les années Mitterrand aussi.
Oui,
oui, oui.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Il avait une grande affection pour Mitterrand, qu'il appelait le vieux, un surnom qu'il donnait aussi à Trotsky. Sans doute la même affection. Non, mais je pense que politiquement, il est plutôt de cette gauche radicale que vous appelez extrême gauche. Mais je pense pas qu'il se cache pour avancer. Alors parfois, il avait créé une structure avec un de ses proches, François Delapierre, pour ne pas dépendre du Parti communiste si jamais le Parti communiste n'allait plus avec lui. Donc il a souvent de fer au feu. Il a souvent un plan B, comme il disait à l'époque européenne. Et voilà. Après le portrait, moi je l'ai trouvé parfois dur. Très enquêté, bien écrit évidemment. Et voilà, mais.
À l'occasion, il disait par exemple, il y a quelques années, il lui dirait aujourd'hui, il se retranchait la langue plutôt que le dire, il disait le féministe, c'est un tissu de conneries. Aujourd'hui, il dirait plus ça.
Il évolue.
De toute façon, personne ne le dirait. Et tout le monde le disait il y a 15 ans. Oui.
Louis de Ragnel pour Europe 1.
Moi, ce qui me frappe chez lui, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un de gauche et il se comporte comme chef de parti, comme vraiment un chef de droite à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il maintient une pression incroyable sur ses troupes et il réussit un exploit qu'aucun autre politique ne réussit à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenir sous sa coupe deux lignes que quasiment tout oppose. Une ligne très républicaine, Quatennens, des gens comme ça, Adrien Quatennens, donc très axé sur la laïcité. Et de l'autre côté, vous avez une ligne très indigéniste, donc woke, avec des gens comme Daniel Obono, par exemple. Normalement, la ligne d'affrontement, enfin, il y a un affrontement extrêmement fort entre ces deux lignes-là. Et pourtant, il n'y a pas de vague, il n'y a pas un mot, il n'y a rien qui sort. Et sous la même, ils sont coiffés sous le même chapeau de Jean-Luc Mélenchon. La deuxième chose qui me frappe, et j'en termine par là, c'est que c'est quelqu'un qui prône une horizontalité partout, le pouvoir du peuple, la démocratie participative. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement vertical. C'est-à-dire que rien n'est décidé sans son accord. Et c'est vraiment, il se comporte presque comme un chef de guerre où c'est la guerre tout le temps.
Tout, vous voyez, dire,
où tout dépend de lui. Ouais. Voilà, moi, ce sont les deux choses qui sont des vrais Arthur. Paradoxes et en même temps des forces incroyables.
Arthur Nazaret, JDD.
Oui, moi, ça m'a un peu moins fait penser à la droite qu'à Emmanuel Macron et surtout à son mouvement. Parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est gazeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de vote. Et donc, ça évite effectivement que les lignes s'affrontent trop violemment, qu'on les voit à la lumière du jour. C'est peut-être quelque chose qu'il a tiré du PS, parce que lui, il a ferraillé dans le PS, il était minoritaire pendant des années et des années. Et d'ailleurs, au moment où il négociait l'accord de la NUPES, ses proches moquaient les Verts en disant que les Verts étalaient devant eux leur division et qu'ils faisaient devant eux leur congrès. Et Julien Bayou, le chef des Verts, avait dit « Mais il devrait essayer les congrès, c'est pas mal.
» Il y a beaucoup à perdre.
C'est une bonne façon de voir les choses. Il y a aussi des photos dans cette enquête.
Il y a des photos extraordinaires, en particulier de quand il est jeune, etc. On le voit en claquette... un côté un peu
post, il y a un côté un peu relax,
totalement
il y a un côté relax et puis après il y a un côté alors il est quand même sur un tandem avec Julien Drey et là il a quand même, pardonnez-moi, mais de loin on dirait quand même le duo dans les années 80 de Chevalier et la Spalaise, quoi, parce que il y en a un qui a exactement le même faciès. Bon, en tout cas, c'est un article passionnant à lire dans le journal Paris Match cette semaine. Merci à vous trois. Merci Arthur Nazaret.
Merci à vous.
Pour le JDD qu'on aura le plaisir de lire dimanche. Merci à vous, Gilles-Martin Chauffier, pour Paris Match et Louis de Raguenel pour Europe 1. Dans un instant, interview exceptionnelle d'un homme qui sillonne l'Ukraine et qui retrouve des morts un peu partout, des morts oubliés qui sont sous les décombres de ce pays traversé par la guerre. Nous sommes au 108e jour de conflit, toujours pas de solution. Le père Patrick Desbois témoigne de l'horreur de ce qui se passe en Ukraine. Il sera en direct avec nous juste après. À tout de suite.